crève de chaud.
And so my boss is dead now. So my boss is Mac 11. Well, can't to realize we're down in the slum. Can't get off the bump. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On vient de vivre un match exceptionnel entre l'Égypte et l'Argentine. L'Argentine qui s'en sort victorieux, 3-2. Le match n'est pas encore fini, autant pour moi. Mais voilà, l'Argentine a remonté 2-0. Ils étaient menés 2-0 par l'Égypte. Et autour de moi, une émission spéciale Coupe du Monde qui va avoir lieu ce soir. Et des invités particuliers, pas la même équipe que d'habitude, que des nouvelles voix, des nouveaux visages que vous allez entendre. Et on va commencer avec la personne à ma gauche, un champion de R1, il me semble.
C'est Grégory. Exactement. Bonsoir tout le monde, je me prénomme Grégory Boada et puis hâte de vous tenir compagnie pour cette petite
voilà,
soirée.
Voilà, ce sera Greg, je pense qu'on va l'appeler ce soir parce qu'on a tous l'habitude de l'appeler comme ça autour de la table. À côté de lui, c'est Aaron. Salut Aaron.
Salut, salut. Voilà, c'est la team d'Estapsien, représente la passionnée de sport, passionnée de foot, de tous les sports en général. Et je vais donner ma main à mon ami Stapsien aussi à voilà, mes côtés.
C'est ça, avec Aaron, on parlera aussi de basket en fin d'émission. Et donc son ami Stapsien, c'est Tiama. Salut Tiama.
Bonsoir tout le monde. Ancien colocataire d'Aaron pour Staps et plutôt spécialisé dans le foot. Voilà. Et je donnerai maintenant la main à mon ami sur la gauche.
Ouais. Et on va donc retrouver Paul aussi avec nous, grand sportif aussi. Hein.
je suis un peu l'intrus de la team.
Mais non, dis pas ça.
Mais l'expert, le consultant football, je connais tout. Voilà, c'est si Faustin t'as une question, tu me demandes, j'aurai la réponse.
Le bookmaker de exactement, la team, accro au Paris Sportif. on va commencer par le sommaire. Le sommaire sera assez simple et rapide. En actu local, je vais simplement parler du SCO. Vous donner quelques informations récentes. On passera sur une grande partie Coupe du Monde, on reviendra sur nos tops, nos flops, l'équipe de France évidemment, Paul qui nous a préparé une petite chronique sur Panini, nous en dira plus tout à l'heure, et il y aura aussi un jeu, vous jouerez tous les quatre, vous affronterez, on fera un petit classement avec des points pour savoir qui est le plus grand connaisseur du football et de la Coupe du Monde notamment autour de cette table. Voilà, on verra ça, et pour finir on partira sur un peu de basket, un peu de NBA et un peu d'équipe de France. On en parlera avec Aaron assez rapidement s'il nous reste du temps. Est-ce que les gars, le match de l'Argentine est fini? Ouais, le match de l'Argentine est fini, donc l'Argentine qui se qualifie pour les quarts de finale face à l'Égypte. Ça n'a pas été simple, on y reviendra tout à l'heure. Et je vais commencer, comme je le disais pendant le sommaire, avec le SCO, parce qu'on a déjà deux arrivées qui sont actées et une troisième proche. D'abord Anthony Lopez, on a déjà parlé dans l'émission, et ensuite c'est Ousmane Simbakoli qui revient à Angers pour un contrat de 3 ans. Il est en provenance de Molenbeek en D2 belge, il avait joué au SCO en U19 avant de passer pro avec Lille. La troisième arrivée attendue, ça pourrait être Branko Vandenboomen, prêté par l'Ajax lors de la deuxième partie de saison, cette saison. Il avait été très important après le départ d'Abdelli, il faudra voir à quel prix sera demandé par l'Ajax pour recevoir le Hollandais sous les couleurs angevines. Voilà ce qui s'est dit rapidement pour le SCO. Est-ce que autour de la table, je vais tourner vers toi, Tiamat, tu auras un avis peut-être sur cette saison du SCO? Qu'est-ce que tu en as pensé assez rapidement?
Eh bah, bien, franchement, le SCO au départ, on donnait pas cher d'eux. On est parti avec le plus petit budget de Ligue 1. On a démarré les premiers matchs, c'était pas le projet, on voyait pas trop le projet sportif. Et on avait peut-être un peu peur au départ, mais sur la saison, on a vu, on a commencé à jouer au foot avec notre budget, nos moyens. Ouais. Et on voit qu'une petite équipe, même avec peu de budget, quand tout le monde va dans le même sens, on peut finir par faire de belles choses.
Voilà, on est bien d'accord. Une belle saison du SCO, donc, qui devra se remobiliser l'année prochaine avec la perte aussi d'Alexandre Dujeu, le coach qui avait fait du très très bon travail, qui était reconnu par nombreux de ses pairs en Ligue 1. On va donc continuer sur le foot, la Coupe du Monde, l'actu chaude du moment. Et je vais commencer directement par l'équipe de France. C'est peut-être ce qui nous tient le plus en haleine autour de la table. Et je vais vous poser chacun la même question. Quel a été votre match préféré de l'équipe de France pour le moment, Grégory? Tu peux peut-être commencer.
Alors pour ma part, ce serait sûrement France-Suède, ouais, parce que on a vu l'étendue de l'attaque, ce qu'elle pouvait donner. Il y a eu vraiment un déroulé offensif qui a été très très impressionnant. En première mi-temps, ça n'a pas été vraiment une avalanche de buts, mais on a vu qu'on était capable de marquer dans pas mal de situations. Donc c'était vraiment impressionnant. Puis même défensivement, on a vu qu'on était capable de vraiment laisser vraiment quasiment rien passer, donc ouais, c'était très très rassurant comme match.
Tout à fait. Ton côté, Aaron, tu rejoins Greg ou
Bah ouais, je vais rejoindre Greg, je pense, parce que même si la première mi-temps a pas été conclusive, on a quand même eu les occasions, on s'en est créé, et la défense, franchement, rien à redire. On peut se faire peur quelques fois, mais bon, c'est comme toutes les équipes, et là, franchement, c'est un 10 sur 10.
Parfait. Tiamat, je suis sûr que tu auras un avis différent, toi.
Bah, le match France-Suède est celui que j'ai préféré.
Ok.
Mais pour moi, le match le plus important et le plus fondateur pour l'équipe de France, c'est quand même le dernier match contre le Paraguay où, là, pour la première fois, ils ont été vraiment dans la difficulté. Ce qui, ouais, on a pu voir qu'ils ont réussi quand même à s'en sortir et ça a dû souder des liens forts.
Et pour toi, Paul ?
Eh ben, un avis différent, moi, c'est France-Norvège. Même s'il n'y avait pas d'enjeu sur le match, je trouve que dans les actions, dans les buts, et surtout dans le triplé de Dembélé, en tant que supporter parisien, ça fait plaisir. Donc je partirai sur ce match, même s'il y avait un petit manque d'enjeu. Voilà, je crois qu'on était déjà qualifiés.
Si c'est ça, on était déjà qualifiés. Ouais, voilà. La Norvège avait sorti l'équipe B, parce qu'ils étaient aussi déjà qualifiés. Ils voulaient finir deuxième. Ça a payé d'ailleurs pour
eux,
finalement.
Oui, en effet. Et j'ai bien aimé ce match, franchement. Okay. C'est les meilleurs souvenirs de tous les matchs.
Super, ouais. Ce que vous retenez notamment, j'ai l'impression, c'est l'attaque oui. L'attaque équipe de France, on l'attendait évidemment très forte, ce quatuor offensif. Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez préféré Barcola ou Doué sur l'aile gauche? Voilà, on a vu deux profils différents, deux profils un plus provocateur que l'autre, un qui a marqué des buts, un qui a provoqué un pénalty important. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que l'autre? Est-ce que vous en préférez un en sortie de banc ou un titulaire?
Honnêtement, franchement, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez complémentaires dans ouais. le sens où Barcola est capable de jouer sur des grands espaces, faire des longues poussées de balles et puis aller directement dans les profondeurs et pourquoi pas servir avec des centres, etc. Et à l'inverse, Désiré Doué est capable de jouer dans les petits espaces. Bah justement, on l'a vu face au Paraguay. Il ouais. a été capable de provoquer un très très bon pénalty qui nous offre d'ailleurs la victoire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires et en fonction de qui on a en face, on peut aligner la paire qui pourrait être le plus bénéfique pour nous.
Ouais. Toi, Thiam, t'as l'air d'avoir un avis tranché.
Eh bah, franchement, je vais faire peut-être une réponse de politicien, mais pour moi, Barcola rentre. Moi, je mets une petite préférence sur Barcola, qui est rentré dans la Coupe du Monde depuis le début. Il a fait que des plutôt bons matchs ou des bonnes entrées à chaque fois qu'il a joué, mais il a jamais fait quelque chose d'exceptionnel. Là où Doué, à l'inverse, c'est même trois premières rencontres, il a fait quelques belles actions, tout ça, mais on sait très bien qu'il peut faire mieux et on l'a vu sur cinquième match même.
Ouais, sur contre le Paris, ouais.
Sur le dernier match, dans lequel là vraiment, bah il nous a sauvé très clairement ouais. parce que le match, on se dirigeait très clairement vers un piège. Donc je mettrais une pièce Barcola, mais Doué nous a sauvé au moment le plus important.
Ouais, on est assez d'accord. Est-ce que vous avez d'autres tops, on va dire, à opposer au flop pour cette équipe de France, d'autres joueurs qui vous ont marqué, des secteurs de jeu très importants dont vous voudriez parler?
Bah, on peut pas ne pas parler de Lisée, je pense, de toute manière.
Ouais. On reste sur l'attaque, mais.
En top. Ah, fallait du défenseur.
Non, mais comme tu veux, si, c'est vrai qu'Olisée, on l'a pas ciblé.
Non, mais ouais. Donc, franchement, j'avais une réserve, parce que moi, je suis un gros kiffeur de Cherki, donc, je voulais le mettre sur l'aile, Olisée, et puis mettre Cherki en 10. Mais j'avoue qu'il a, bon, il a pas énormément de temps de jeu, Cherki, donc. Non. Je mettrais peut-être en opposition top Olisée et presque flop Cherki. Ouais, ça fait un peu mal au cœur d'ailleurs.
Ça, je l'avais dans mes notes, un point d'interrogation, parce que c'est les nouvelles qui étaient sorties aussi, qu'il avait eu des complications personnelles, des ennuis familiaux. On ne sait pas de quelle nature, mais voilà, qu'il l'avait un peu marqué. C'était ces images après justement le France-Suède où il n'avait pas tapé dans la main de Deschamps et des choses comme ça. Au final, c'est le mieux après le Paraguay où il met son chapeau de Napoléon. Est-ce que autour de la table, il y a quelqu'un qui ne mettrait pas Cherki dans les flops, qu'il mettrait quand même une plus grosse réserve que Paul, on va dire, parce que je pense que personne ne le met vraiment dans le flop. Tout le monde sait que c'est compliqué pour lui. Mais est-ce que quelqu'un le met vraiment pas du tout dans le flop? Non, il est là où il est.
Moi, je mettrais Cherki dans. On peut pas trop juger parce qu'il a pour l'instant pas du tout joué à son poste. Il a jamais joué à son poste, oui, depuis le début de la compétition. La seule fois où on l'a vu numéro 10, du coup, depuis le début de ce rassemblement, c'était contre la Côte d'Ivoire dans le premier match amical. Et ben là, c'était très clairement le meilleur joueur du terrain. C'était lui l'homme du match. Donc, j'aimerais bien le voir sur son poste avant de vraiment pouvoir dire qu'il a plutôt floppé ou plutôt été un top dans cette équipe.
Et moi j'ai une question pour toi Thiam, est-ce que tu penses du coup que avant la fin de cette Coupe du Monde, on aura l'occasion de voir Cherki en numéro 10 ou c'est un peu trop tard justement pour le voir faire des exploits et marquer les esprits des Français dans cette Coupe du Monde?
Pour moi, franchement, vu comment l'équipe de France marche aujourd'hui, je vois pas pourquoi Deschamps prendrait le risque d'essayer une autre composition. Même si on sait que Cherki est très prometteur à ce poste, tout simplement parce que Olisée nous rend vraiment bien, est très vraiment très utile et plus que important à ce poste-là. Donc, à part si blessure d'Olisée, je ne vois pas pour quelle raison Cherki jouerait numéro 10.
Ouais, moi, c'est la question que j'allais poser aussi. Est-ce que si Olisée se blesse, on le remplace poste pour poste par Cherki ou est-ce que ce serait d'autres changements apportés? Est-ce qu'on réaxerait pas Dembélé pour apporter peut-être un Doué Barcola sur les ailes? Est-ce qu'il y aurait pas autre chose de fait ou même passer en 4-3-3 ce genre de choses qui serait fait à la place de remplacer un poste pour poste Olisée Cherki au vu des prestations de Cherki?
Bah sur l'idée si on fait du poste pour poste et qu'on se base sur le match de la Côte d'Ivoire où il était en 10, ça marche bien quoi.
Mais justement, est-ce que les performances de Cherki font qu'il a perdu cette place de changer poste pour poste.
Ça doit se voir à l'entraînement, je pense.
Ouais.
Je ne pense pas, parce qu'il rentre toujours à tous les matchs. Donc ça veut dire que c'est quand même l'un des joueurs de la rotation du 13-14 titulaire, comme on peut dire. Mais si on me donne mon avis, si je dois dire mon avis, je pense qu'on devrait essayer de jouer avec la même tactique, simplement avec Cherki au poste de numéro 10, si jamais Olise se blessait. Après, est-ce que c'est ce que pense le staff de l'équipe de France? Je suis pas sûr. On sait très bien qu'ils aiment jouer avec leur certitude, même s'ils font quelques changements sur cette édition. Donc je pense potentiellement qu'on repasserait plutôt sur un 4-3-3 plus solide et plus équilibré si jamais Olise venait à se blesser.
Okay, mais c'est ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, que Olise se blesse. Voilà, meilleur joueur peut-être de l'équipe de France, ça se tape avec Kylian Mbappé. Évidemment, maintenant on va passer au flop. Moi, dans ce que j'ai noté, j'ai mis les latéraux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est la grosse lacune de l'équipe de France. Tu as un avis là-dessus, Aaron?
C'est une lacune en même temps. Avec cette équipe, on peut. Oui. Avec que des colosses, franchement, on essaie de chercher les erreurs.
T'as raison.
Ça, le problème avec cette équipe, mais aussi ça peut montrer qu'il y a des exigences dans la Coupe du Monde. Et on était habitué à un niveau de Koundé de l'année dernière qui était franchement irréprochable. Et là, il se fait un tout petit peu plus discret. Mais vu qu'on est, je pense qu'on est beaucoup centré sur l'attaque et qu'on voit pas que derrière, par exemple, que ce soit Saliba ou Upamecano, on en parle beaucoup moins que l'attaque. Alors que franchement, on se sent vraiment en sécurité avec eux et on a vraiment pas de doute, on se concentre vraiment que sur l'attaque, quoi.
Ouais, c'est ça. Tiens, moi, je te voyais un peu plus hocher la tête quand j'ai dit flop pour les latéraux.
Bah, je pense que on peut parler de flop à l'échelle de l'équipe de France, comme Aaron l'a dit. Ça veut dire que dans les joueurs de l'équipe de France, en défense centrale et en attaque, on a peut-être les meilleures compositions possibles. Au milieu, on a quand même des milieux qui sont parmi le top 10, top 15 mondial. Grand maximum. Et c'est vrai que sur les latéraux, c'est un peu plus bas dans leur forme du moment. Mais je pense qu'on ne s'en inquiétera sérieusement que si on tombe sur des top ailiers en face. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas des ailiers du niveau maximum, franchement, ils font leur job.
Ça peut arriver assez vite. Hein. Si la France bat le Maroc en quart de finale, on peut vite se retrouver face à un Lamine Yamal. Lamine Yamal contre Lucas Digne, est-ce que ça ne fait pas vachement peur quand même?
Bah, franchement, déjà, Lucas Digne, je le trouve meilleur défensivement que ce à quoi je m'attendais.
Ok.
Ça ne sera sûrement pas assez pour arrêter un Lamine Yamal, même si diminué un peu par la blessure. On a bien vu ce que Semedo a subi au match précédent Espagne-Portugal. Mais je fais confiance à une bonne couverture aussi de Saliba et à nos ailiers qui travaillent beaucoup défensivement pour pas laisser trop souvent Lucas Digne en 1-1. Sachant que de l'autre côté, Nico Williams s'est blessé, la plus grosse menace. Donc, je pense que Koundé pourra faire son travail, lui.
Ouais, face à Baena, c'est ça, en face, qui est titulaire en Espagne. Par contre, un truc sur lequel je m'imagine un peu tous d'accord, on ne reverra pas Théo Hernandez titulaire.
Ah non, j'espère
pas. Ça m'étonnerait.
Personne ne veut le voir titulaire, en tout cas, j'ai l'impression.
Mais à noter là-dessus, quand même, c'est quand même, de la part de Deschamps, il s'octroie une certaine liberté quand même à changer en plein tournoi, comme en pleine compétition, des postes clés comme ça comme les latéraux.
Les milieux de terrain aussi.
Et oui, et c'est un luxe déjà que l'équipe de France a, de pouvoir tourner comme ça avec des joueurs, tester des trucs sur des matchs assez importants. Et quand ça marche, c'est plutôt plaisant. Donc ouais, je pense qu'avec Lucas Digne, c'était un pari qui a fonctionné. Donc je pense qu'on va sûrement rester là-dessus et puis peut-être qu'on espère même tous un peu.
Je n'en serais pas si sûr que ça.
Ah ouais?
Parce que
les prestations de Théo Hernandez, c'était quand même c'était compliqué, hein. Il provoque le penalty, il se fait manger par Bay.
Alors moi personnellement, je préférais garder Lucas Digne, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse revoir Théo Hernandez dans le cas où on sait que depuis le début de la compétition, sur le côté gauche, Didier Deschamps fonctionne par paire. Et donc, c'est-à-dire qu'il a toujours aligné Théo Hernandez et Doué ensemble en tant que titulaire. Et à chaque fois qu'il mettait Barcola, c'était Lucas Digne en tant que titulaire. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. On a juste vu un peu une différence quand il y a les entrées de Barcola ou Doué pendant les matchs, ce qui fait que la paire change. Mais en tant que titulaire, c'est toujours comme ça. Et quand on a vu la rentrée de Doué, on peut supposer qu'il y a des chances qu'il commence titulaire au prochain match. Et donc, peut-être une possibilité pour Théo Hernandez, pour lui aussi...
De revenir, de se racheter.
Oui, ouais. De revenir sur le terrain avec Doué.
Ouais, ça se vaut, on verra ça. Moi, je pense quand même, je vais donner mon avis, que Théo Hernandez a vraiment déçu. Il a vraiment pas été au niveau. Donc même si Deschamps, même à la base, avait peut-être l'idée de fonctionner par paire, soit il va changer ça, et il pourra mettre Doué titulaire, soit il va vraiment rester tout le temps sur la paire Barcola-Digne, qui a aussi très bien marché. Laisser Barcola titulaire, c'est quelque chose de pas déconnant. Donc voilà, si je pense que ce serait plus ce qu'on verra. Et est-ce que à l'inverse, du côté de l'aile du côté droit, on peut voir Malo Gusto un jour titulaire ou rentrer assez tôt dans une rencontre pour débloquer la situation du côté droit, lui qu'on sait plus offensif que Jules Koundé?
Ça dépend, je pense, de ce qu'il y a en face. Quoi. Si ça attaque beaucoup, c'est super dangereux. Mais après, si tu vois que ça assure en défense et que tu as besoin d'attaquer, je pense que tu peux le rentrer, ouais.
Ouais, c'est peut-être un match compliqué contre l'Espagne. La France en difficulté, qui n'arrive pas à marquer. Malo Gusto à la place de Koundé à la 60e minute, je ne sais pas.
La 67e.
Ça serait dans un cas particulier. Mais Koundé a vraiment l'entière confiance du staff de l'équipe de France, si on en croit les sources proches du staff. Et donc, à moins que prestation catastrophique ou blessure, ou alors vraiment, comme vous l'avez dit, cas particulier où faut aller absolument marquer un but dans un match à élimination directe, je ne vois pas trop Malo Gusto passer devant Koundé. Okay. Même si moi, j'aimerais le voir un peu plus souvent.
Quand même.
Oui.
Ok, ben, on verra ça en tout cas sur les prochains matchs, parce que le prochain match, c'est le Maroc. Voilà, le quart de finale, la demi-finale, c'était en 2022, qui aura lieu donc jeudi soir, 22h, à New York, il me semble. Non, Philadelphie peut-être. Je ne l'ai pas noté et j'ai dit ça au pif. Sur ce match, on voit évidemment la France vainqueur autour de cette table, j'ose espérer, oui. En 90 minutes. Est-ce que vous avez peut-être un prono? On peut se lancer sur ce jeu-là et on reviendra la semaine prochaine pour voir qui avait raison, qui avait tort. Grégory, qu'est-ce que tu nous dis sur 90 minutes?
Alors honnêtement, en tant que grand joueur de mon petit prono...
Dernier au classement.
Ouais, mais j'ai loupé des journées aussi. Alors, moi, je mettrai ma pièce sur un petit 3-1 de la part de l'équipe de France, mais je vois bien le Maroc marquer le premier but en première mi-temps et la France faire des changements, réajustements tactiques, envoyer un petit 3-0 en deuxième mi-temps.
Okay. C'est très précis comme pronostic.
Je sais, merci.
On le retiendra. Aaron, qu'est-ce que tu me dis?
En tant que top 1 justement de mon petit prono, je vais suivre exactement, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je vois bien le Maroc bien rentrer dans le match. Premier but pour surprendre justement l'équipe française. Et l'équipe ne va forcément pas se laisser faire. Je vois bien le Maroc défendre pendant une bonne partie du match. Et ensuite, l'équipe de France, franchement, jouer son jeu comme contre la Suède ou le Paraguay. Et attaquer sans cesse, juste à temps de marquer.
Quel est ton côté, Siama?
En tant qu'avant-dernier, seulement devant Grégory, je avais aussi...
C'est pas glorieux non plus, hein, ton résultat.
Je vois aussi 1-3-1. 1-3-1, mais non, la France, pour moi, marquerait en premier. Le Maroc égalise et puis sur la fin, on enchaînerait les deux derniers buts.
Ok, c'est possible. Et toi, Paul? 3-1 aussi?
Non, je suis pas comme tout le monde, moi. Moi, je vois plus du 2-1, un match un peu compliqué, frayeur, quoi. Genre avec de l'attaque en face. Parce qu'en fait, là, je prends pour référence le dernier match du Maroc avec 3 buts. Mm. Donc, je me dis, c'est une équipe qui a quand même la dalle. Même après avoir marqué 2 buts, ils continuent d'aller chercher. Surtout, je crois, le deuxième but était assez tard quand même. Ils auraient pu poser un but ou quoi, mais non, ça attaquait.
Ouais.
Donc je vois une équipe.
Après,
qui marque.
Quand tu joues contre le Canada, oui, et quand tu joues contre la France,
c'est sûr. C'est pour ça que je vois un seul but, j'en vois pas trois non plus.
Ouais, c'est vrai.
Et je vois, je vais faire comme Greg, je vais être hyper précis. Moi, je vois du 2-0 France mi-temps, et puis sur la fin deuxième mi-temps, on se fait un peu chier. Et là après, petite frayeur à la fin. Tu vois, il marque et puis après il pousse. Et au final, ça siffle et c'est bon.
Ouais,
on retiendra et on verra la semaine prochaine qui avait raison.
Voilà, c'est ça. Ouais, 3-1, de toute façon.
Toi, c'est 3-1 aussi?
Et toi?
Moi, je mettrais un 2-0, la France impériale, pain à but. Voilà, doublé de Kylian Mbappé, évidemment, pour repasser devant Lionel Messi au classement des buteurs. Parce que Messi a marqué. Il est donc repassé en première place avec 8 buts.
Ouais.
On va changer, on va arrêter de parler de l'équipe de France. On va parler du reste de la compétition. Est-ce que vous avez une équipe coup de cœur qui vous a marqué au sein de cette compétition, voilà, depuis les phases de poule jusqu'aux fins de ces huitièmes de finale qui auront lieu ce soir?
J'ai regardé aucun de leurs matchs, mais le Cap-Vert. Juste parce qu'ils ont fait vibrer, ouais, trembler.
Même contre l'Argentine, t'as pas vu le match?
Non, je crois pas.
Fallait.
Là, je sais, mais j'ai un peu un regret là-dessus d'ailleurs. Mais non, à part ça, en vrai, j'ai envie de dire équipe de France, quoi.
Ouais, autre que l'équipe de France, évidemment.
Bah, je pense que non.
Ok. Toi, Aaron, ça avait l'air d'être le Cap-Vert aussi. T'as vu le match contre l'Argentine?
Ouais, je l'ai vu aussi, mais je suis plus surpris par la Norvège, France.
Okay.
Franchement, ils sont confiants, ils n'auront aucun doute avec ce viking, ce cyborg, qui marque presque à chaque match. Mm. Et franchement, sortir le Brésil, ils étaient invaincus en plus. Enfin, c'est...
Ouais, très belle performance, on est d'accord. Ce choix, justement, on en parlait au début de l'émission, de faire, entre guillemets, exprès de perdre face à la France, à payer. Et voilà, ils se retrouvent donc en quart de finale pour la première fois de leur histoire. Les Norvégiens, c'est très très fort. De son côté, Greg, est-ce que tu as en tête une équipe coup de cœur?
Alors, pas forcément coup de cœur, mais une équipe où je suis très curieux de savoir jusqu'où ils vont pouvoir aller, c'est l'Angleterre.
Ok.
Parce que là, par rapport à plusieurs années, ils ont vraiment des gros joueurs. Kane est en très 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 grosse forme. Mmh. On voit que Bellingham s'est réveillé aussi depuis le début de la Coupe du Monde. Donc forcément, avec Declan Rice, ils ont un très très bon milieu. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils proposent du beau jeu. Donc très curieux, pas coup de cœur, mais très curieux.
Et toi, Thiama?
Et moi, bah, j'en aurais deux. D'abord le Cap-Vert, même si je les avais déjà vus, je savais un peu de quoi ils étaient capables lors des qualifications à la Coupe du Monde en Afrique. Mais après, bah, avec tout ce qu'ils nous ont proposé, à part le match contre l'Espagne où ils sont restés derrière, ils ont vraiment eu à cœur de proposer leur football et de jouer. Et au final, contre l'Espagne, ça a aussi payé.
Ouais.
Et de l'autre côté, il y a une équipe qui m'impressionne vraiment beaucoup, là où je ne les attendais pas. On leur a mis 3 en mars, c'est la Colombie. Qui, pour le coup, propose un vrai beau football. C'est beaucoup de passes, ça attaque des deux côtés, des centres. Ça, en plus, avec Luis Diaz devant, qui est un grand joueur, qui n'est pas en forme sur tous les matchs, mais qui, franchement, m'impressionne aussi et m'a impressionné cette saison. J'aimerais les voir aller le plus loin possible sur cette compétition.
Ouais, je suis assez d'accord sur la Colombie. Je suis assez déçu. J'ai pas pu voir de match de la Colombie encore parce qu'ils étaient tous très tard à chaque fois. C'était assez dommage. Mais ce soir sera l'occasion parce qu'ils jouent donc le dernier huitième de finale contre la Suisse tout à l'heure à 22h. Voilà. Est-ce que vous avez maintenant une équipe qui vous a déçu lors de ce mondial?
Toi, c'est quoi ton coup de cœur, juste Faustin?
Moi, en coup de cœur, j'aimais bien la Norvège aussi. Je serais parti là-dessus. Avant le début de la Coupe du Monde, on avait fait des émissions. J'avais mis peut-être une des 3 équipes organisatrices. Bon, au final, elles m'ont toutes pas spécialement convaincues. Peut-être un peu plus le Mexique. Mais voilà, les États-Unis, j'ai été très déçu, notamment par les décisions d'hier. C'est pas vraiment de leur faute, j'ai l'impression. Hein, c'est un certain Donald Trump qui a agi pour tenter de faire gagner son équipe. Et ils nous ont... en fait, c'est ça que je me suis dit aussi hier, quand j'ai vu le match contre la Belgique, qui nous a fait croire que les États-Unis étaient forts au football, alors qu'ils n'appellent même pas ça le football. C'est, voilà, alors que la Belgique n'était pas fort depuis le début de la compétition. Ils paraissaient excellents face...
On remercie les amis belges, d'ailleurs, pour ce beau score 4-1.
Ouais. Les États-Unis a quand même mis 4-0 au Paraguay. On leur a mis 1-0. Ça a peut-être penché dans la balance.
Peut-être, c'est vrai. On va, en tout cas, voilà, les États-Unis m'ont assez déçu. Mais ouais, c'est un coup de cœur, la Norvège, ouais, c'est ce que je disais. Norvège qui m'a bien plu, que j'avais mis vainqueur en plus contre le Brésil sur mon petit prono. Voilà, j'avais mis 2-0 et le pénalty à la fin m'a brisé mes rêves d'une puissance. Bref, maintenant une équipe qui vous a déçu autour de la table?
Moi, personnellement, je m'attendais à un rouleau compresseur de la part des interventions médiatiques de certaines personnes. J'attendais l'Espagne beaucoup plus fort et beaucoup plus impressionnant que ça. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est très très fan de l'Espagne, de cette équipe espagnole et particulièrement du petit Lamine Yamal. Mais ouais, je m'attendais à une équipe qui allait mettre des plus gros scores, qui allait être beaucoup plus impactant et qui, quand on regarde le jeu, quand on regarde surtout aussi les scores, c'est une équipe qui est censée faire peur. Quand on voit les résultats de la France, on a peur de la France juste en regardant les résultats. Quand on regarde les scores de l'Espagne, on n'a pas forcément peur. Quand on regarde quand ils marquent leur but, etc., on peut se dire, est-ce que ça peut être fragile par rapport à des vrais prétendants?
Donc confiant pour un demi, par exemple, contre l'Espagne?
Justement, est-ce que ce ne serait pas une équipe qui pourrait nous porter préjudice? Ouais, genre, même si on reste confiant, C'est vrai qu'on l'a déjà vu, les précédentes rencontres face à l'Espagne ne se sont pas très très bien passées.
Ils pourraient se réveiller pile sur le demi sur nous. Quoi.
Ce serait le moment pour eux finalement.
Ouais. Bah, s'ils veulent tuer Nico Williams, qu'ils le fassent. Mais juste pour l'Espagne, moi je partage un peu l'avis de Grégory, mais quand même à noter qu'ils ont toujours pris zéro but, c'est la seule équipe de la compétition. Donc leur défense qu'on n'enjolivait pas
non,
au
la
départ.
Suisse aussi.
Ah, autant pour moi. Si, la Suisse a pris gagné 4-1 à un moment.
Ah yes.
mais c'est pas grave. Non, mais l'Espagne, donc on n'enjolivait pas la défense et on encensait l'attaque avant le début de la compétition, et au final c'est peut-être un peu l'inverse qui se passe.
Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vous ont déçu?
Portugal.
Ouais. J'allais le dire justement, le Portugal, franchement, beaucoup le mettaient favori. Un fameux CR7, je ne sais pas si vous connaissez. non, mais franchement, on entendait peut-être un peu plus avec ces deux milieux, Vitinha. Franchement, c'est
décevant.
Ouais, Vitinha, presque décevant. Voilà, c'est
Vitinha,
ça.
D'ailleurs, pour rebondir sur Portugal, c'est à la fois ma déception et mon coup de cœur. Quand j'y repensais, parce que en fait, il y a tellement de joueurs parisiens que pour moi, c'est une évidence d'aimer ce pays.
C'est ton coup de cœur.
Futur Erasmus oblige, je dois m'acclimater aux coutumes. Non, mais
Coup de cœur avant la Coupe du Monde, quoi.
Comment?
Avant qu'il joue. C'était ton coup de cœur avant qu'il joue la Coupe du Monde.
Quoi. Oui, exactement. C'est vraiment juste un move de personne de gros fan qui réfléchit pas. Mais ouais, du coup, pareil, il y avait une grosse hype sur ce milieu, puis même. Avec Mendes, tout ça, ça reste, l'attaque pas dégueulasse quand même, on va pas abuser.
On a connu mieux.
Donc ouais, vachement déçu par ce Portugal. Puis le match d'hier était bon, il y avait du répondant en face, mais bon, on s'attendait vraiment à du 4-4, tout ça. Ça marque.
Un Portugal-Espagne, ça aurait pu être une finale, hein, sachant que si le Portugal avait fini premier de son groupe, ils auraient pu rencontrer l'Espagne en finale. C'est la Colombie qui a fini première à la place. On aurait pu avoir un quart de finale Portugal-Argentine aussi, ça aurait été beau pour un Messi CR7. Tiama, toi, c'est quoi ton équipe flop de cette Coupe du Monde?
Je l'ai dit aussi, c'est Portugal.
Ouais, toi aussi,
Portugal.
Parce que,
on voyait des énormes joueurs mis ensemble. On savait que le coach n'avait pas forcément la meilleure réputation et il y avait beaucoup de peur vis-à-vis de ça. Mais au final, ces rumeurs n'étaient pas infondées. Et on a vraiment, malgré un potentiel de jeu et un potentiel un potentiel incroyable, le Portugal a vraiment déçu en termes de niveau, en termes de solidité, même défensive.
Ouais.
Quand je les ai vus se faire tourner, balader par la Colombie, ça m'a vraiment un peu choqué, carrément.
Je crois que dans les flops, on a oublié le Brésil, carrément décevant.
Allez-y, je vous en prie.
Non, mais c'est que je viens d'y repenser, et puis je pensais aux équipes européennes, et là je me dis, mais le Brésil... qui sont sortis par la Norvège. Alors, c'est une grosse Norvège, mais.
Ouais, mais c'est un petit Brésil,
voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, sur le papier, ils partaient quand même favoris, quoi, parce que c'est quand même une équipe qui a des gros joueurs et tout. Ouais. Et puis, même le match, le 16e contre le Japon, je crois que c'est le Japon qui ouvre le score. Pour le Brésil contre le Japon, c'est quand même assez intriguant. Donc, grosse déception là-dessus. Puis, je revoyais leur poule. Alors, poule, elle était vachement facile aussi, quoi. Il y avait Écosse, il y avait juste le Maroc, on va dire. Sinon, c'était Haïti, c'était de la free win. Et puis Écosse aussi. Donc, Brésil déçu.
Je vois personne parler de l'Allemagne.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Quand même sorti en 16e de finale, ça faisait les deux éditions précédentes, ils étaient sortis en poule. voilà, je sais pas si.
C'est un exploit alors pour eux.
Ouais, je sais pas. Voilà, sachant que les 16e de finale n'existaient pas avant cette Coupe du Monde, est-ce qu'on peut. Est-ce que l'Allemagne a vraiment rejoint les phases éliminatoires? Ça se discute. Éliminé en 16e de finale. Là aussi, gros flop, une Allemagne qui était pourtant sur le papier assez puissante, avec un Moussiala qui était de retour de blessure, qui était en forme physiquement encore, et d'autres joueurs qui n'ont pas su répondre présent, malheureusement. Et ce sera sûrement notre dernier flop, sauf si quelqu'un a une autre équipe en tête.
Pour l'Allemagne, on pouvait dire que on pouvait quand même s'y attendre. Ça fait un moment que
ils
ont du mal un peu à proposer des choses vraiment cohérentes, et ça s'est juste confirmé encore sur ce mondial.
Et on est bien d'accord avec cette élimination en 16e.
L'Allemagne qui était à l'Euro 2024, elle est jusqu'où?
Élimination en 16e. Allemagne quart de finale contre l'Espagne.
Pas dingue non plus.
L'encyclopédie.
GPT.
Le score, les buteurs, s'il te plaît,
Ah si, Bikel Merino.
1-0. Je sais pas, mais en tout cas, tu seras pas mal sur le quiz qui aura lieu tout à l'heure.
Le slip que portait Yamal. Nike.
Carré. En tout cas, on va passer à la pause musicale. On enchaînera sur la chronique de Paul, puis le quiz Coupe du Monde avant de parler de NBA. Ce soir, on s'écoute du Niska, c'est Chasse à l'homme sur le 101.5 FM. De la paix.
Salade, tomate et sans oignon. Mets de la sauce sur les frites. Bata. J'ai mis l'élastique sur le pognon. Voilà. Y'avait trop de billets de 10.
Oui.
Dites-moi le prix de la Merco.
Oui.
Dieu merci, je connais plus la crise.
Non.
Je te paye en quoi? Billet de banque ou billet du crime?
Billet.
Billet orange ou billet vert?
Hein?
Tu veux la blanche ou bien la verte?
Ah.
En combien de temps tu vas le faire?
Combien?
Je suis pas le con, pourquoi pas me la faire?
Non.
Il a plus
non.
Des cartouches et je vois que la météo n'a pas prévu l'averse.
Papa, papa. Pa, pa.
Si je monte sur un plan et que je vends l'argent, c'est pour rentrer avec.
Voilà.
Sale comme là, comme là.
Chata, Nicki, Minaj,
Minaj. C'est moi qui fais l'oseille, oseille. Pétasse, fais le ménage.
Ramasse.
Le cul de ma maîtresse et moi le chéri. Pardon, c'est pas ma faute.
Hein.
Regarde à vue ton pote à Pouka, il le radique.
C'est ta faute. Hein. Pardon, j'ai pas compris.
Quoi?
Qu'est-ce que je fais dans la vie, tu veux savoir?
On fait de la trappe, mon pote, on vend de la dope, mon pote.
On vend la weed.
Ma mère ne travaille plus, quelque part, je suis ravi. OG, couche sur le bloc,
oui.
Ça sonne sur mon phone.
Allô,
je reçois un coup de fil des guides. Les ennemis veulent un bail.
Ah bon?
Sur la vie de ma mère,
j'arrive.
Ils ont pas compris.
Hein?
Ramène mon fusil.
Ramène.
Ils reviendront jamais.
Shoot, balle dans la tête.
Bang.
Shoot, balle dans la tête.
Bang, bang.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot,
shoot, balle dans la tête.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot, balle dans la tête.
Bang, bang.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot,
shoot,
balle dans la tête.
Higo, faut l'argent. Bibi, faut l'argent. Pour manger, faut l'argent. Pour baiser, faut l'argent. J'ai volé pour l'argent. Mais j'ai rien fait, mais c'est l'argent. Vive l'argent, j'suis dans le bendo pour l'instant. La cagoule effraye la banquière. Le gamin a passé la frontière. Oh, maman, cosa. On veut des yébis qu'on fait dans le coussin. Oh, maman, cosa. Depuis que j'ai percé, j'ai beaucoup de cousins.
Oui.
Shoot, balle dans la tête. T'es parti en premier, mais c'est moi le meilleur.
Voilà.
Fonce, tu casses pas la tête. Même où j'habite, le guetteur devient dealer.
C'est nous en parlant en bail. C'est nous en parlant en zère.
9-1.
C'est nous les plus violents de toute la France entière.
Ah oui, oui.
OG, couche sur le bloc.
Oui.
Ça sonne sur mon phone.
Allô.
Je reçois un coup de fil des guides. Les ennemis veulent un bail.
Ah bon?
Sur la vie de ma mère.
J'arrive.
Ils ont pas compris.
Hein?
Ramène mon fusil.
Ramène.
Ils reviendront jamais.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot, balle dans la tête.
Bang, bang.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot,
shoot,
balle dans la tête.
Shoot, balle dans la tête.
Bang.
Shoot, balle dans la tête.
Bang, bang.
Shoot, balle dans la tête.
Shoot,
shoot,
balle dans la tête.
Et voilà, c'était Chasse à l'homme de Niska sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. On est reparti pour cette deuxième partie d'émission et je te laisse parler, Paul.
Eh bien, c'est parti pour la chronique Panini. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, je voulais faire un petit point sur le phénomène Panini qu'on observe actuellement. Je pense qu'on est tous, on n'a pas pu passer à côté.
Ouais, c'est clair.
Gros kiffeur de Panini oblige. Moi, avant la Coupe du Monde, je pensais que c'était vraiment un truc de gosse Panini parce que j'avais l'album 2016 et puis après ça s'est arrêté là. Je sais pas les gars. Vous,
c'est... Ouais, la même.
Vous avez eu les pareils.
Ouais, 2016 aussi. 2016.
Que 2016.
Non, j'avais des albums de Ligue 1 aussi.
Ok.
Voilà.
Mais voilà, ça s'est arrêté à un certain âge, quoi.
C'est ça. Après l'école primaire.
Donc je me disais, ouais, voilà, c'est vraiment réservé aux enfants. Et après, j'ai quand même commencé à voir un peu des gens sur TikTok de mon âge en ouvrir. Ça m'a un peu hype. Et puis, petit à petit, je suis allé dedans tranquillement.
T'es un grand enfant, en fait.
Et j'ai acheté, exactement, un grand enfant qui a acheté le sien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout occupé que par les enfants comme milieu. Il y avait d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'adultes. Beaucoup trop, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Donc, il n'y a pas que des gens de 20 ans, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a vraiment des gens de 30, 40, 50 ans. On peut voir sur le réseau. Mais il y a un engouement vraiment particulier cette année comparé aux autres coupes du monde, j'ai l'impression. Quand je repense à la Coupe du monde 2022, j'avais pas ce feeling, cette hype Panini. Je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Il y a vraiment ce truc de bulle, j'ai l'impression, de les gens postent, les gens font leurs openings et tout. Mais pour moi, il y a d'autres facteurs explicatifs. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais pour moi, il y a le fait qu'il y ait vraiment genre c'est que ce soit une dernière pour beaucoup de grands joueurs. J'ai fait une liste absolument non exhaustive, mais Ronaldo, Messi, Neymar, Salah, Modric, Neuer, tous ces grands joueurs historiques qu'on a tous connus, C'est leur dernière. Donc je pense qu'il y a une volonté des gens qui achètent de garder un petit souvenir de ces gens-là. Autre critère pour moi, ce serait qu'il y ait que ce soit la première Coupe du Monde à 48 équipes. C'est une config historique. Ça fait énormément de vignettes en plus. Donc plus de vignettes, plus de kiff. Donc pour moi, ça joue aussi un peu en compte. Et puis voilà. Donc évidemment les réseaux sociaux pour moi qui sont à l'origine de cette hype. Parce que bon, Faustin, toi t'as un album.
Tout à fait.
T'as vu ça comment sur les réseaux?
Sur les réseaux, exactement. Et j'ai entendu aussi parler aux informations. Peut-être le fait que ce soit racheté par Tops. C'est quelque chose qui a fait parler. Les gens se sont rappelés que ça existait, l'album Panini. Ça a fait racheter ça aux gens.
Il y a ce truc aussi, exactement. Ouais, c'est l'avant-dernière Coupe du Monde où l'éditeur, c'est Panini. Ça fait un bon bout de temps que c'est Panini. Je dirais pas parce que c'est dans mes questions. Donc les gars, préparez-vous. Mais ça fait vraiment très. Je te regarde. Mais ouais, voilà, c'est 2026, c'est l'avant-dernière Coupe du Monde couverte par Panini en éditeur. Ça passera à Tops en 2031. Donc je pense que la hype ne sera que encore plus haute pour la Coupe du Monde en Espagne, Portugal, Maroc là. Je pense que ça va être quelque chose d'assez dingue. Bon, il y aura moins ce truc des derniers joueurs, derniers grands joueurs qui vont marquer, mais ce sera vraiment la dernière de chez Panini. Donc pour moi, c'est un mélange de tous ces facteurs qui peut expliquer cette grosse hype. Et avant de passer à la suite, les gars, du coup, on va passer à la session Kéké, la session Stion, la session question. La session Kéké, faut que tu me regardes. Qu'est-ce que tu nous fais? Première question, les gars. Donc, comme j'ai dit, en quelle année Panini a publié son premier album Coupe du Monde? Et si vous n'avez pas l'année, lâchez la décennie, ça passera. Et celui qui a l'année gagne. Hein.
Ouais, on fait un peu plus proche, on va dire.
Exactement.
Moi, je vais dire 1952.
52. Et là, on parle du carnet Panini.
Dans le format actuel, exactement.
J'ai peut-être vu un peu trop.
Moi, je pense que t'es allé un peu trop vieux. Moi, j'irais sur un petit 2006.
Ok. Ouais,
toi, tu vois bien trop jeune.
Un petit 2006 ou 2002.
Peut-être de l'entre-deux, chez Aaron.
Moi, je dirais plus dans les années 70, je pense. Je ne sais plus exactement l'année. Je ne sais pas exactement l'année.
C'est le jeu.
78.
78, okay. Tiens,
moi je partirais sur 1990.
Eh ben, on a quelqu'un qui était bon au début, qui m'a fait hésiter, qui m'a fait peur. C'était les années 70, c'était 1970 avec la Coupe du Monde au Mexique. Donc c'est Aaron qui gagne. Aaron, un point.
Tu m'as fait changer d'avis.
Ouais, 2006, toi, t'as vu.
Que nos parents.
Ouais. Mais c'était en voyant justement TikTok d'un mec qui remontait et je me disais, ça remonte jusqu'à où? Et là, je voyais le mec enchaîner, c'était un daron, il montrait tous ses pays. Je me dis, putain, ça va très loin. Nouvelle question. Malheureusement, Faustin, tu pourras pas répondre à celle-là parce que t'as la réponse. C'est dommage. À votre avis, les gars, qui êtes pas du tout au courant normalement, combien y a-t-il de cartes, de stickers dans un album Coupe du Monde 2026?
Je sais aussi.
Aaron a un album aussi, oui, c'est vrai.
Moi, je dirais.
Ok. Alors.
Si vous me lâchez le nombre exact, les gars.
C'est très fort.
C'est un verre.
Je vais vous chercher un verre d'eau.
On a dit combien d'équipes? 46, 48?
48.
48.
Ah, ça part en maths.
Et l'album. Ouais.
Mais il y a un trick, attention. Hein.
Ah, quoi?
Un trick. Un trick.
Faut savoir le nombre de cartes totales qu'il y a, possiblement, dans les paniers.
C'est sur l'album complet, si tu veux le compléter, t'as combien de stickers en tout à avoir, quoi?
Eh bah, ça part en calcul mental.
Ouais, bah,
fait sur son téléphone.
Ah, abuse-toi,
ce gros chacal le fait sur son téléphone.
Moi, je partirais sur un petit 576 cartes.
Pas besoin de me le dire, j'avais vu sur ton téléphone. 576.
Tu dis combien, Thiama?
Et moi, je dirais peut-être autour des 1300, va taper au hasard 1313.
Bon, okay. Aaron,
putain, mec, c'est
Aaron
exceptionnel.
Ça fait un sacré carnet quand même.
Ouais, 1300 cartes.
Le dictionnaire à Thiam avec.
Bah, cela dit, il est quand même moins loin que Greg. Toi,
Et ouais. Quoi?
Et ouais, il y en a
94.
Et la VAR.
Ils préparent l'émission, ils savent pas.
Si c'est 96, c'est toi qui aimes chercher un verre d'eau.
Allez, 94.
C'est 94, donc je l'avais dit, voilà, Faustin, tu es de mauvaise foi.
Donc tu vas lui chercher un verre d'eau.
Non, c'est bon, il m'en reste, moi.
Parfait. Donc là, ça fait Aaron un point, Thiama un point. Pour la dernière question, les gars, alors celle-là, si vous l'avez, ça sort de nulle part. Mais à votre avis, en 2025, Panini, c'est combien de chiffre d'affaires? Parce qu'on imagine que c'est un beau pactole, mais
4-5 euros.
Alors, Faustin, t'es un peu loin, je pense.
Une rupture de stock, je pense. C'est ça.
C'est quoi, c'est...
Au plus proche, gagnera.
T'as pas un ordre de grandeur?
Ouais.
À me donner?
Ouais. Bah, c'est entre.
1 euro.
Entre 10 millions et 100 milliards.
Ok.
Grosse fourchette.
Wow. Ouais, grosse fourchette. Moi, je serais parti sur un. 5 milliards.
5 milliards. Ok.
Par le chiffre d'affaires. Pas
ok. Alors. On va voir un peu plus grand, histoire de corréler avec les actus qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vais dire 67 milliards pour ma part.
Ah, ça sort pas de nulle part, ça.
Ouais. Non, pas de nulle part.
Il y a des calculs derrière en plus.
J'ai pas la ref, tu peux la faire?
Vous voulez que je fasse la ref?
S'il te plaît, oui.
6-7.
Dommage qu'il n'y a pas des caméras.
Mon casque, il ne marchait pas. Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît?
Je la fais un peu plus lentement pour nos internautes. 6-7.
J'ai bien entendu, merci.
Vous l'avez chez vous.
Vous l'avez. Envoyez tout ce... Je l'ai au 3737, si vous l'avez.
Oh là là.
Bon allez, le chiffre d'affaires.
Moi, je dirais plus un petit 2 milliards. Ouais, je rejoins.
Ok.
Alors, on a pris mon chiffre, donc je vais changer, mais je dirais un petit 3 milliards du coup.
Bah, du coup, on a un grand gagnant qui gagne de 2 points. C'est 1,7 milliard.
GG, voilà.
Parfait.
Ah, t'aurais pu la jouer juste en dessous, 1,9. Puis t'aurais eu tout ce qu'il y avait en dessous. Mais...
J'aurais pu.
Mais ouais, 67 milliards, t'étais pas loin quand même, Greg.
Ouais, c'est vrai que j'étais pas
ça se tente, ça se tente.
Bah, déjà, vous étiez quand même pas mal. Il y en a pas un qui m'a dit 300 000 euros. Oui, ou... voilà. Bon, même si t'étais pas dans la fourchette, mais genre qui a dit sauter une dinguerie. Non, mais en vrai, pas mal. Donc, Aaron, bravo. Tu es le roi des paninis.
Parfait. J'en gagne du coup.
Tu gagnes ton verre d'eau. Hein. Il n'y a qu'un seul lot ici à gagner, hein, malheureusement.
Ouais, Radio G avec coupure budgétaire, ça c'est compliqué en ce moment.
On remercie la présidente de la région.
On va enchaîner. Pareil sur un quiz Coupe du Monde cette fois. Enfin, même si Panini on est toujours sur la Coupe du Monde, cette fois un peu plus sur le football vraiment. On va commencer avec un battle royal. En fait,
le but c'est de se battre.
Allez, levez-vous, c'est parti. Non, ce sera de donner les compositions de la France et du Maroc lors de la finale de 2022. Donc chacun votre tour, vous allez dire un joueur.
Soit demi-finale.
Demi-finale, ouais, ce que j'ai dit.
Je gagne un point pour avoir corrigé.
T'as dit finale. Ouais, moi, je te donne un point.
Et j'en enlève un, Faustin. Qui joue pas, mais j'en enlève un point.
Voilà, donc vous pouvez dire un joueur soit de l'équipe de France, soit du Maroc. J'ai envie de dire.
Non, moi j'étais sur les compositions en mode 4-3-3 et tout, j'étais en train de me
dire. Tu donnes les joueurs. Quand tu te trompes, quand tu dis un joueur qui a déjà dit tu es éliminé, c'est le dernier à rester debout, à gagner. On va tourner, on va dire Paul, Tiama, Aaron, Greg et on fait les tours.
Tu l'as trouvé tout seul ce jeu ou pas?
Oui, j'ai trouvé.
Il est très stylé.
Merci.
Je crois que tu l'as.
Non.
Moi, je vais très stylé, je vais moins kiffer quand je vais me faire éliminer deuxième tour. Mais...
Allez, on va enchaîner. Allez.
Alors, je vais commencer par Kylian Mbappé.
C'est une bonne réponse.
Juste question, on compte les joueurs qui sont rentrés ou pas?
Non, les titulaires, vraiment.
Ah, les titulaires.
Ok. Ouais.
Hugo Lloris,
c'est bon.
Je vais dire Achraf Hakimi,
c'est bon.
On partira sur un Amrabat pour ma part.
Amrabat, c'est bon.
Raphaël Varane.
Varane, c'est bon.
Adrien Rabiot,
c'est faux.
Rabot n'était pas sur le terrain, il n'y est toujours pas, à mon avis.
Tiam a éliminé en premier.
Allez, dehors.
Qui l'a cru?
À toi.
Tac. Griezmann
était sur le terrain.
Oui. Ça paraît évident.
Grégory.
Théo Hernandez
était sur le terrain.
Jules Koundé
était sur le terrain. À toi, Aaron.
C'est Bounou, le gardien.
Yacine Bounou était dans les cages marocaines.
Le Gigi National.
Giroud était en neuf.
Upamecano
n'était pas titulaire, malheureusement. C'est un 1 contre 1.
C'était...
Et oui, Tiama.
Un contre 1 de Footix.
Voilà.
Exactement.
Alors
là, j'ai vraiment un doute, je vais dire Lucas Digne
n'était pas sur le terrain. Greg, il faut réussir, est-ce que c'est le même tour?
Sofiane Boufal
était sur le terrain. C'est une victoire de Grégory.
GG, Greg.
Voilà. Et bravo, oui. Grégory. Au milieu de terrain, vous avez manqué Tchouaméni.
Ah, j'ai hésité. Tchouaméni.
Il y avait Fofana. C'était pas Rabiot, c'était Fofana contre le Maroc.
C'était qui la charnière?
Charnière centrale, c'était donc Varane, tu l'as dit.
Il y avait Dembélé.
Konaté,
moi je savais, j'en avais plein,
je trouve. Ouais, mais t'es parti
au
premier tour.
Ouais, en fait, t'as pas le droit
de parler.
C'est historique, hein, c'est historique.
Voilà. Dembélé, Tiama était en effet sur le terrain. Vous aurez pu citer Unai, qui joue au SCO à ce moment-là. Voilà, il y avait Ziyech.
El-Nesyri.
El-Nesyri était là, il y avait Mazraoui, il y avait Romain Saïs, voilà. C'est tous ces joueurs-là que vous avez oubliés. Et maintenant, est-ce que cette rapidité, les deux buteurs de ce match?
Allez, Mbappé?
Non.
Allez.
Comment il s'appelle? Colomani?
Oui.
Et...
C'est Giroud? Vas-y.
Non.
Non, Gigi, il n'a pas marqué, non?
Lloris?
Non. Oui, vas-y, toi.
Kingsley Coman?
Non.
Chouameni?
C'était un titulaire, le deuxième.
Griezmann?
C'est pas Chouameni, c'est pas Griezmann.
Est-ce que c'est un attaquant?
Non.
Oula.
Non, là, c'est
Varane?
Non.
Konaté, pardon.
Non.
Qui a appartient
à Hernandez
sur... Fofana.
Hernandez, du coup.
Je pense qu'au bout de 11 joueurs, on l'aurait eu, je pense, au moins.
Bah, vous avez fait 10, hein, dommage. Vous me dites Lloris avant Hernandez, c'est pas
c'est
mal.
Vrai, c'est vrai.
On va continuer un peu sur le même principe avec maintenant les meilleurs buteurs all-time de la Coupe du Monde. On va partir dans le sens inverse cette fois. Parce que c'est un classement qu'on voit pas mal avec voilà Messi, Mbappé qui battent des records.
Ouais, je croyais qu'on partait dans le sens inverse du plus petit buteur. Je me disais ça va être super long.
Surtout très très rapide. Attendez,
j'ai pris le top 10, sauf que du coup ils sont 11 parce qu'il y a une égalité. On va faire donc le sens inverse. Grégory, tu commences après Aaron Tiama.
On part, on fait la mise à jour. On fait à partir de maintenant.
Ouais, c'est ça.
Ah, okay. On doit juste avoir un joueur du top 10 ou dans l'ordre?
Non, joueur juste du top 10, top 11 du coup.
Ah. Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, en effet, 19 buts, deuxième.
Lionel Messi.
Lionel Messi, 21 buts maintenant, avec premier.
Juste Fontaine.
Juste Fontaine, en effet, septième avec 13 buts.
Pelé.
Pelé, huitième avec 12 buts.
Haaland.
Non.
Ah,
pas de Haaland.
Grégory. Bah, il n'a pas fait beaucoup de
coups. Oui, c'est vrai, c'est
sa première Coupe du Monde.
Grégory, tu sors de la salle.
Il n'y a pas Klose, un Allemand.
Miroslav Klose, voilà. En effet, troisième avec 16 buts.
Ah oui, en plus.
Ronaldo Nazario.
Ronaldo Nazario, quatrième avec 15 buts.
Ah, allez, Eusebio.
Et non, il n'y a pas de Eusebio dans ce classement. Aaron, à toi.
Franchement, j'ai même plus de joueurs en tête. Là.
Ah, tu peux en avoir.
Ah, c'est Battle Royale aussi, là?
Ouais, c'était Battle Royale aussi. Okay. Ouais.
Toujours confondu. Ouais. Allez, Neymar.
Mais non. Ah non, Neymar n'est pas en ce classement. Est-ce que Tiama, pour garantir ta victoire, t'en as un?
Maradona.
Pas de Maradona dans ce classement, on repart sur un tour.
Oula.
Ah ouais?
Bah, juste entre Tiama et...
Est-ce qu'il reste des joueurs actuels?
Il reste deux joueurs actuels.
Ok.
Dans cette Coupe du Monde?
Dans cette Coupe du Monde, ouais.
Quel pays?
Bon.
Encore en lice?
Je le dis pas.
Ah. Quel joueur?
Il y en a un éliminé, hein, encore en lice.
Müller?
Bah...
Son prénom?
Thomas Müller.
Thomas Müller n'est pas dans cette liste.
Oh bah.
Attends, là, il peut reprendre.
Tiama.
Gert Müller.
Gert Müller,
ça marche. Ça m'a fait baiser.
Je demande la barre, là.
Paul a tout niqué.
Ça marche sinon, là-dessus?
Bah oui, ça marche, Gert Müller. Voilà, cinquième avec 14 buts. Vous avez oublié Harry Kane? Cinquième, 14 buts aussi. Cristiano Ronaldo, neuvième avec 11 buts. Voilà.
D'accord.
Après, dans les joueurs moins connus, il y a Kosic, un Hongrois.
Ah, voilà. Connais,
Et Klinsmann, un Allemand.
Klinsmann,
oui. Okay. Klinsmann.
D'accord.
Voilà, je ne le connais pas non plus. On va finir ce quiz.
Tiens, ma connaît par cœur, évidemment. C'est la carrière de ce joueur.
Maintenant, je vous ai préparé des questions personnalisées sur vos connaissances, vos sujets de prédilection. Trois questions chacun. Bon courage. Je vais commencer par Tiama, du coup. Non, tiens, je vais faire une question à chaque fois, une question chacun, ce sera pas mal comme ça. Tiama, pour commencer, quel est le surnom de l'équipe du Sénégal? Tout simplement.
Je dirais deux
réponses acceptées.
Je dirais les Lions de la Teranga, mais c'est
les Lions de la Teranga.
Notre emblème. Donc, je ne pense pas.
Si, c'est les Lions de la Teranga, c'est le surnom. Les Lions, tout court, ont été acceptés. Voilà. Maintenant, Grégory, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal?
C'est personnalisé, ça?
C'est tout à fait personnalisé.
Effectivement.
Oui.
Sadio Mané?
C'est Sadio Mané.
C'est bon pour moi, les gars.
Paul, maintenant, qui est le meilleur passeur en Coupe du Monde de l'équipe de France all time?
Sadio Mané? meilleur passeur.
Presque raciste. Hein.
Réel ou raciste. Je dirais Antoine Griezmann avec aucune conviction.
C'est Antoine Griezmann. Ouh. Il y avait deux réponses acceptées parce que Antoine Griezmann et Michael Olise sont à 5.
Ah ouais, déjà. Putain, c'est dingue.
Wow. Oui, en une Coupe du Monde. Aaron, maintenant, dans quel club joue actuellement Neymar Junior?
J'ai l'emblème, mais j'ai pas le.
Non, pas le nom.
J'ai pas le nom.
Quelqu'un autour de la table?
Santos.
Santos, on l'avait à part Aaron.
Yes.
C'est bien personnalisé. Bien.
Maintenant, deuxième question pour toi, Tiama. Combien de joueurs du FC Barcelone participent à la Coupe du Monde?
Oh, putain,
si tu comptes,
ah merde, ça va être long.
Okay, le stat avec, il a le stat aussi.
Je vais aller sur un 14.
Dommage, c'était 16 joueurs.
Ah, c'est pas mal.
Aïe.
Pour toi, Grégory, combien de joueurs du Real Madrid participent à la Coupe du Monde?
Je peux compter ou...
Non.
Ok.
Je vais réfléchir un peu, mais pas trop longtemps. Quoi.
13.
Dommage, c'était 10. Okay. Paul.
Nul Real.
Tu peux deviner ta question?
Bah oui. Alors.
C'est quoi ta question?
Bah, combien du PSG?
C'est ça.
Je suis trop fort. Bon, je dirais. Enfin, les 15. Non, plus, beaucoup plus.
Je vais
Je dirais 17.
17, dommage, c'était 16.
Ouah,
comme le Barça.
Ouais, on a 16. On fait une moyenne, hein, j'avais dit 15 ou 17.
Ah, je m'attendais à beaucoup moins.
Et encore pour toi, Aaron, je savais pas ton équipe favorite.
Ah oui, bah.
Donc, ce serait
moi non plus, je connais pas.
Combien de joueurs disco participent à la Coupe du Monde?
Oula.
Est-ce que quelqu'un là autour de la table déjà? Est-ce que quelqu'un
7 joueurs disco?
Oui, bah tiens, fais un signe.
2 non.
Pas demandé.
Allez, 3.
Et ça va en répondre.
Allez, 3.
Et c'était 2.
Oh!
Mais c'était pas ta question,
ça, alors. T'as pas dit que quelqu'un peut aider?
Si, t'as dit.
Non, je dis, est-ce que quelqu'un là, juste pour que vous.
Bah, je dis pas dans tes pensées.
Il avait pas répondu encore.
Et puis, Tiama qui fait 2 de
l'heure. Arrête,
dis-le
toi.
Je m'excuse, Aaron, d'avoir volé ta question.
Le fort?
Non. Le fort, il est.
L'haïtien, t'as dit là?
Il est en Mauritanie.
Abdelhi?
Non, pas Abdelhi.
Il a dit qui là?
Il a dit Carlos Arkent.
Bah, le laïcien, du coup, l'autre.
Oui, c'est Carlos Arkent, c'est laïcien.
Allez, c'est parti.
C'est Amin Zbaï, le second.
Ah, bien vu.
Amin Zbaï qui a été appelé à la dernière minute avec le Maroc. Et enfin, dernière question pour tout le monde. Donc, on sait que toi, Tiama, combien de passes décisives a Messi en Coupe du Monde?
11. Non, largement.
Mais toujours pas à toi de répondre.
Je crois que t'avais une question pour tout le monde. Dernière question pour tout le monde. C'était la question collective.
Je crois que c'est la bonne réponse.
Il faut mettre les sous-titres.
Celle d'aujourd'hui.
Il en a fait une aujourd'hui. On va la compter, je ne l'ai pas mis. Je vais faire plus. 9, hein. C'est la bonne réponse. Bravo, mal, Tiama, magnifique.
Donc, Paul intervient pour dire n'importe quoi.
2 sur 3 pour Tiama. Grégory.
Meilleur passeur de l'histoire, je crois.
C'est ça. Il le dépasse donc. Il était égalité avec Maradona avec 8. Mais du coup, avec la 9e d'aujourd'hui, devient le leader. Pour toi, Grégory, sur quel jeu FIFA Mbappé est-il apparu pour la première fois en tant que carte fut?
En tant que carte fut, je dirais FIFA. Alors attends, 27 ans, 2026, je dirais FIFA 18.
C'était FIFA, tu dis combien, Aaron?
J'avais dit 18.
J'avais 17.
C'est le FIFA 17.
Possible. Il est apparu à 17 ans?
Je sais pas.
Parce que justement.
Aussi, ouais. Et qui, tu te souviens de son nom?
Oui,
Mbappé Lotin.
C'est ça, c'était Mbappé Lotin, c'était pas qui Mbappé sur ce jeu. Maintenant, Paul, question quand même assez compliquée.
Ah,
sur quel numéro de page se trouve l'équipe de France sur l'album Panini?
Est-ce
que tu l'as?
87.
Ou non, c'est bien avant, 74, 75.
Ça va bien France. Avant.
Bon, quand même.
Tu l'avais toi, tu penses? Avant de préparer?
Ah, okay. Je l'avais. Voilà, j'ai juste celle de l'Espagne. Parce que je me souviens.
La 54?
Non, la 67.
Ok,
ouais.
Il y a de quoi retenir. T'en penses quoi, Greg? 6-7.
Et pour finir cette émission en beauté, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de basketball. Pour toi, Aaron, combien de fois la France est-elle allée en finale de Coupe du Monde?
Oula, pour un joli 0 sur 3, je vais dire. 4,
c'est la bonne réponse.
Voilà,
sauve les meubles. Est-ce que t'as les dates?
Non.
Yes.
Allez, si tu peux les avoir.
C'était du coup 2022.
Oui.
2018.
Oui.
98.
Ouais. La dernière.
Et 2006.
Et 2006. Voilà.
Et voilà. Et
tu
et
fais
voilà,
timide bah, alors que t'as tout.
Non, zéro défaite sur ces 4 finales, mais seulement 2 étoiles. C'est dommage.
Voilà.
Quelle phrase philosophique.
Ah ben celle-là.
Non, ok. Non,
j'ai une question à te donner, mais.
Si, vas-y.
Ouais, en fait, c'était nul. J'en ai pas, mais je réfléchissais, mais. Pour te piéger un peu, quoi.
Ok.
Mais je pense que t'as tellement de connaissances qu'on peut pas te piéger.
Bah, exactement. Mais de toute façon.
C'est dommage.
Radio G revient la semaine prochaine. Voilà, il est 20h59, l'heure de se quitter. Après nous, ce sera un autre regard. On trouvera une équipe à peu près similaire. la semaine prochaine, les gars, vous serez chauds de revenir.
Ouais, carrément.
Sur le papier, ouais.
Et voilà, ben on se redit ça et on sera de retour donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on vous souhaite une bonne soirée. On se laisse avec un autre regard.
Bye bye.